Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Plusieurs fois par semaine ici, on analyse, on détaille, on décortique, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je vous annonce tout de suite que je suis parti pour un SmackDown solo. Voilà, je suis là pour vous analyser le SmackDown du 15 mai 2020 au Performance Center, comme toujours. Et donc, je suis accompagné de personne, malheureusement, mes camarades n'ayant pas de disponibilité ce week-end. Et bien, n'hésitez pas, hein, surtout, ça a déjà été le cas il y a quelques semaines, où je vous ai fait un SmackDown solo, à nous donner votre avis. Alors, on fait au mieux, évidemment. Si je fais un SmackDown solo, c'est que on ne peut pas faire vraiment mieux, mais si ce format vous convient quand même correctement, c'est un peu plus rapide à écouter, c'est l'avantage. Il y a moins de débats, évidemment, c'est un peu l'essence de catch-up qui s'en va. Parfois, on pourrait vous proposer des SmackDown à plusieurs, mais il faudrait sortir l'analyse deux ou trois jours plus tard. Donc, est-ce que vous préférez la réactivité à... est-ce que vous préférez la réactivité d'une analyse qui sort vite, pardon, ou plutôt patienter pour avoir notre réaction? Bon, on sait, hein, sur nos statistiques, que plus on sort tard une émission, moins elle est suivie. Hein, dans le catch, tout se renouvelle très vite. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me faire sentir moins seul. Puisque en plus de ça, pour en rajouter, hein, le show commence avec deux personnes sur le ring. Ils ne sont pas tout seuls. C'est Miz TV, mais bien sûr, MC Mizzy est accompagné de Johnny Drip Drip, donc John Morrison et le Miz. N'ont même pas le temps de présenter leur invité de ce soir. Il arrive, il est tout excité. Il est en feu, c'est Otis, le porteur de la mallette du Money in the Bank. Il confirme au micro que c'est la plus grande victoire de sa carrière, mais la plus grande victoire de sa vie, c'est d'avoir réussi à conquérir le cœur de sa chérie Mandy Rose. On apprend aussi, grâce aux interrogations du Miz et de Morrison, que Otis, bon, il a caché aussi un peu de la bouffe dans sa mallette. Hein, il a mis de quoi tenir s'il avait faim, hein, c'est possible, on a le droit. Lui, il connaît le code de la mallette, pas comme Asuka, donc il a le droit de mettre ce qu'il veut dedans. On souligne le fait qu'il a gagné sans grimper des échelles, mais bon, c'est comme ça la vie. Il nous dit il y a des choses qui cassent, mais moi je reste debout. Le Miz et Morrison nous passe des photos de Otis bébé. Bon, honnêtement, c'est pas très impressionnant. Hein. On nous dit que c'était un gros bébé, mais c'est pas ouf non plus. Otis lui gueule avec des oh yeah, il sature bien le micro. Et puis le Miz pète un plomb. Le Miz il nous avoue j'arrête, j'ai plus envie de faire semblant. Tu te rends compte que t'es à une étape d'être le champion universel. Rendez-vous compte qu'on est à trois fois rien que ce mec-là représente notre entreprise, notre compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est n'importe quoi. Le Miz il est furieux. Il dit moi quand j'ai eu cette mallette, j'ai tout fait pour devenir une star et toi tu casses de la bouffe dedans. Voilà, donc bah écoute, va chercher Tucker et on te défie ce soir pour un match tag team. Et Otis nous apprend que Tucker il est pas là, il peut pas être disponible. Donc le Miz il rigole, il était même pas capable d'avoir une bonne tag team. Et ben trouve quelqu'un, on s'en fout, trouve-nous un partenaire mystère et ce soir tu affrontes la meilleure tag team du 21e siècle. Donc Otis doit trouver un partenaire puisque Tucker n'est pas là. En attendant, on nous annonce donc que Sami Zayn, malheureusement, le champion intercontinental est out, il ne peut pas défendre son titre. Rien n'est dit sur la raison. Je vous avoue que je n'ai pas cherché. Je crois qu'il ne veut pas, hein, venir catcher si ma mémoire est bonne, tout simplement à cause du risque du Covid, comme Roman Reigns, à moins qu'il soit bloqué dans un autre état ou dans un autre pays, je ne sais pas, ou qu'il soit blessé. Là, je vous avoue que je n'ai pas cherché l'info. Bref, Daniel, Sami Zayn ne peut pas, son premier titre en 4 ans à la WWE dans le main roster, il est obligé de l'abandonner, de le relinquish. Donc, on a un tournoi. Le plateau est assez étonnant puisque nous aurons Bryan contre Drew Gulak, Jeff Hardy contre Sheamus, ça c'est un peu moins étonnant, Elias contre Corbin et Edge Styles qui est donc là contre Shinsuke Nakamura. Voilà les 8 participants de ce tournoi intercontinental. Donc, on remarque qu'on a deux rivalités d'entrée, hein, Jeff Hardy, Sheamus et Elias Corbin. Un étonnant Bryan Gulak que l'on aura ce soir, Styles Nakamura. Un WrestleMania rematch. Bon, Elias Corbin, c'est aussi un WrestleMania rematch, mais c'est moins marquant. Et quelques absents, hein, et au rang desquels, alors là, moi, j'ai le cœur brisé, je suis dégoûté, évidemment. Cesaro n'est même pas là. Voilà, ça fait chier, c'est comme ça, c'est la vie. Il ne mérite même pas d'être dans ce tournoi. Bref, on commence de suite par Elias versus Corbin. Rematch du dernier WrestleMania. Et le match et vous connaissez de toute façon ma détestation pour tout ce que fait Baron Corbin. Donc c'est mauvais, bon, le rythme est pas terrible, c'est long. Donc qu'est-ce que je peux vous résumer? Oui, alors à un moment donné, Elias, il a mis Corbin dehors, il se met debout sur le turnbuckle et il lui saute dessus quand même. Voilà, un saut un peu impressionnant. Corbin, à plusieurs reprises, il va jouer de la guitare, il pique la guitare de Elias pour fanfaronner à l'extérieur. Ça plaît pas du tout à Elias, qui l'attrape, qui le fout dans les escaliers, qui le projette dans les barricades. Elias, il nous tente de marcher sur les cordes façon Undertaker, mais Corbin le fait tomber, le fait glisser des cordes dans une manœuvre mal exécutée. Hein. C'était pas terrible comment ils ont fait ça. Ça se voyait que Corbin et Elias faisaient très attention de pas se faire tomber en vrai. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je lis en même temps, Corbin a placé un Spinebuster, il a placé un Shockslam, il a jamais voulu faire son End of Day, visiblement, même quand il dominait. Et finalement, Corbin, qui fanfaronne une fois de trop, reprend la guitare et pète la guitare sur le turnbuckle à l'extérieur du ring. Et là, Elias va se venger, il sort un coup de genou, puis une espèce de roll-up chelou, 1, 2, 3, Corbin est éliminé. Ça fait grand plaisir, évidemment, et Elias l'emporte. Dans un match donc qui n'avait aucun intérêt catchesque, ça je le répète, je l'assume. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ça fera au moins, peut-être pas l'unanimité, mais la majorité. Et alors, très étonnant, moi j'ai trouvé, on a très mitigé sur la FUD, hein. On nous a vaguement rappelé que Elias a coûté le Money in the Bank match à Corbin, mais... voilà, une fête qui dure depuis longtemps et qui manque. Je trouve qu'il monte pas du tout en intensité. Corbin avait pété la gorge d'Elias il y a quelques semaines dans les coulisses. C'est pas terrible. En tout cas, Elias avance. Corbin est éliminé. Ça lui fera un petit peu les pieds avant de se faire prendre les Claymore Kick lundi. Mais ça fait pas rêver non plus. Hein. Elias qui avance dans ce tournoi, honnêtement, c'est pas ouf. Et donc, il sera contre le vainqueur de Edge Styles Nakamura. On peut reconnaître que le tournoi est un peu surprenant. On sort des alignements heel face, par exemple Nakamura Edge Styles. Bon, Edge Styles est peut-être en train de faire un face turn après son match contre l'Undertaker, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Donc on verra. Suspense. Ça sera la semaine prochaine. On l'aura pas ce soir ce match-là. Pendant ce temps, Otis en coulisses cherche son partenaire du soir. Il croise Sheamus qui refuse. Il lui dit « Oh putain, il y a vraiment personne, c'est vraiment pas cool. » Mandy Rose lui dit « Bah t'as qu'à voir le champion, t'as qu'à voir Braun Strowman. » Oh yeah, ça c'est une bonne idée, baby. Donc il part voir Braun Strowman, et Braun il lui dit « Attends, tu veux de moi comme partenaire pour le tag team de ce soir? Ou tu veux en profiter pour cacher ta mallette dans mon dos comme un vil traître ?» Et Otis dit « Oh bah non, je suis bien trop con pour avoir pensé ça. » Enfin, il le dit pas, mais voilà. Braun lui dit « Ok, je vais y réfléchir, ok. » Entre temps, on est hacké, SmackDown est victime du hacker. Sauf que le hacker, il diffuse le même clip en fait. C'est plus du hacking, c'est le même clip annonciateur qu'on a eu au Money in the Bank. C'est-à-dire, voilà, il nous dit je suis partout, je vois tout le monde, j'entends tout, personne n'est à l'abri, la vérité va être entendue. Honnêtement, j'étais très déçu. Parce que si vraiment on est dans une gimmick de hacker, bah tu repasses pas la même capsule. Deux ou trois fois d'affilée là pour nous dire en gros que t'es en train d'arriver, c'est pas comme la capsule de voilà, je sais pas moi, si les Forgotten Sons arrivent ou n'importe quelle équipe ou quel catcher où tu fais un peu des capsules promotionnelles, là c'est un hacker donc il doit nous hacker le show. La gimmick c'est que c'est pas prévu, c'est pas quelque chose que la WWE scénarise, c'est donc là le mec il hack le show et juste il rediffuse le même truc que la semaine dernière. C'est mou du genou là. On sent bien que ça décollera un jour, mais à la limite, ne passez pas la capsule. Il vaut mieux que le hacker on l'oublie un peu et que dans deux ou trois semaines, hop, grosse révélation, plutôt que nous faire du teasing là qui. Parce qu'on a compris, c'est bon, ok, on a compris, il va hacker, ok, d'accord, il va nous dévoiler la vérité, détruire des amitiés, je ne sais quoi, mais allez-y là. Soit tu le fais, soit tu le fais pas, mais bon. Ben voilà, je suis déçu du hacker pour le moment. Ensuite, une autre qui va être déçue ce soir, c'est Naomi, la pauvre Naomi, et elle affronte Dana Brooke. On se souvient que Dana Brooke l'avait battue dans le match qualificatif pour les Money in the Bank et permis à Dana Brooke de décrocher une mauvaise mallette hein, dans le bureau de Stephanie McMahon. Là encore, Dana Brooke réussit à éviter l'une des prises de Naomi et à placer un pin pour la victoire. Donc, victoire de Dana Brooke à nouveau. Je vous détaille pas plus le match. Bon, c'est pas ouf. Hein. Naomi a fait quelques jolies pirouettes comme d'habitude. Dana Brooke a fait des efforts comme d'habitude. Elle fait une espèce de roue là où elle court et puis hop, elle percute son adversaire dans le coin du ring. Bref, ça a été assez court. Naomi a l'air de l'avoir très mauvaise. Donc, est-ce qu'on va pas vers un changement de personnalité et de caractère là aussi pour Naomi ? Mystère, mystère. En tout cas, avec une série comme ça, Dana Brooke, voilà, ça part bien, ça part bien. On reste sur un segment féminin, assez long d'ailleurs, puisque on va avoir un clip émouvant et beau de Becky Lynch, de ce qui s'est passé lundi soir à Raw. Si vous n'êtes pas au courant, courez écouter l'analyse qu'on a fait avec l'ami Chris de ce show historique où The Man Becky Lynch, la championne de Raw depuis le WrestleMania de l'an dernier, celle qui a battu Ronda Rousey, doit abandonner son titre pour cause de grossesse. Elle attend son premier enfant et donc c'est Asuka qui avait gagné le Money in the Bank, qui avait décroché la mallette, qui se retrouve avec le titre de championne. Donc on a une passation de pouvoir. Le segment était émouvant à Raw, vraiment, vraiment très fort. Et le clip est réussi, hein. Il nous repasse un peu la carrière de Becky Lynch. On la revoit débuter à NXT, on la revoit gagner le Royal Rumble, puis WrestleMania. Et voilà, ben merci Becky Lynch, thank you Becky, va pouponner un petit peu et on se reverra peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Pendant ce temps, Charlotte, elle, est à SmackDown et oui, je vous rappelle que depuis Raw, on est au courant qu'il y a du Brand Invitation, ça veut dire que Raw peut inviter des gens de SmackDown, SmackDown peut inviter des gens de Raw. Bon, Charlotte, c'est ce qu'elle nous dit en arrivant, bon, elle est ni SmackDown, ni Raw, ni NXT, elle est les trois à la fois. Comment fais-tu, Charlotte, pour être partout à la fois, nous dit-elle, avec des dents d'une blancheur incroyable, hein. Elle a un excellent dentiste, visiblement. Elle dit, mais c'est tout simple, c'est parce que les gens veulent plus de Charlotte Flair. Mais oui, bien sûr, on n'est pas lassé de l'avoir gagné tout le temps, partout. Voilà, c'est une moneymaker, c'est ce qu'elle nous dit, je m'appelle Charlotte Flair. Voilà, je suis la fille de Lod, vous savez, je suis talentueuse, je suis excellente, etc. Elle est interrompue par la championne de SmackDown, Bayley, qui arrive avec Sasha Banks. Et on remarque, petit hommage à Becky Lynch, qu'on a trois des quatre Horsewomen sur le ring. Bayley lui shut up un peu en lui disant, écoute Charlotte, ouais, blabla, tout ça. La dernière fois qu'on s'est croisés, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors Sasha Banks, elle lève la main, elle fait moi je sais madame. Et ben la dernière fois, Bayley, tu battais Charlotte et tu devenais championne. Et Bayley a dit effectivement la dernière fois, je t'affrontais, je te battais, je devenais la première et la seule championne féminine à être Grand Slam champion, puisqu'elle a été tag team championne, championne à NXT. Bayley, elle a un palmarès, elle aussi, relativement conséquent désormais. Et elle dit à Charlotte, ben voilà, repars à NXT pour faire rêver un petit peu les petites jeunes. Repars à Raw pour affronter pendant 20 minutes Liv Morgan. Ici, le show bleu, c'est chez moi, j'ai battu tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça inclut toi, ça inclut Charlotte aussi. Bon, Charlotte fait une vague tentative un peu mou du genou en disant à Bayley, ouais, enfin pour me battre, t'as dû changer de look et de coiffure. Bon, ce à quoi j'aurais répondu, s'il suffit de changer de coiffure pour battre la Queen, c'est pas non plus très, très demandant. Mais non, Charlotte, elle préfère regarder Sasha Banks, justement. Et elle dit, Bayley, c'est Sasha qui t'a rendu relevant, donc qui a fait de toi une championne à NXT, qui t'a porté à NXT. Et là, c'est grâce à elle que t'es championne maintenant. Donc j'aimerais bien écouter Sasha. Est-ce que t'es bien là, Sasha, toi qui étais avec qui j'ai main eventé Raw, avec qui j'étais la première à main eventer les pay-per-view, est-ce que ça te satisfait vraiment d'être dans l'ombre de Bayley? Sasha Banks ne peut même pas répondre puisque c'est Bayley qui monopolise le micro et qui dit oh là là, arrête Charlotte, t'essayes de briser notre amitié, on est plus intelligente que ça. Charlotte, elle va jusqu'à demander à Bayley, elle va demander à la technique de couper le micro de Bayley, mais ça sera pas fait. Et Bayley a dit, écoute, j'en ai marre de parler, un match, ça te dit, championne contre championne? Charlotte a dit, ouais, je pense que ça plairait à Fox de m'avoir sur le ring. Je suis la plus belle, la plus forte, ça. Charlotte est très contente d'être Charlotte. Elle a dit, ok pour ce match-là, mais quand même, j'ai une question pour Sasha. Est-ce que, Sasha Banks, tu vas rester comme ça le laquais de Bayley? Est-ce que tu vas rester comme ça dans son obscurité? Et on finit le segment, et ce match championne contre championne ne sera pas ce soir, hein, ça sera peut-être SmackDown prochain. C'était une invitation pas sur le moment. D'ailleurs, Charlotte, étonnamment, est venue en tenue de ville avec une petite jupe, des bottines. Elle n'est pas du tout venue dans sa tenue de... Elle n'avait pas sa robe de queen qu'elle garde d'habitude quand elle est sur le ring. Elle était un peu streetwear. Et donc, alors que penser de ce segment ? Le problème, c'est que c'est toujours mal joué parce que Sasha Banks a l'air de mordre dedans. Quand Charlotte parle, Sasha Banks, elle a les yeux un peu levés au ciel, comme si elle réfléchit dans ses pensées, elle est là. Ouais, peut-être qu'elle a raison, Charlotte, en fait. On sent que Sasha Banks doute. Et moi, je trouve que c'est un peu faire passer pour des connes, les filles. S'il suffit que quelqu'un lui dise verbalement « Eh, mais t'en as pas marre de l'aider à être championne ?» Que la meuf se dise « Ah ouais, c'est vrai, j'en ai peut-être marre de l'aider à être championne. » Je sais pas trop vers où on va dans cette... Est-ce qu'il faut l'intervention ? C'est pas bête, hein, l'intervention de Charlotte. Il faut peut-être l'intervention de cette multiple championne et de cette membre des Four Horsewomen et de celle qui a le mieux réussi, hein, des Four Horsewomen. Il faut peut-être ce déclic dans la tête de Sasha Banks pour dire « Mais meuf, voilà, nous on a fait les premiers Hell in a Cell match, on a fait les premiers tout ce que tu veux chez les filles. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là à ronger ton frein ?» J'aimerais bien, moi, qu'il se passe quelque chose. J'aimerais bien qu'il y ait pas une vraie dispute frontale. Mais j'aimerais bien que Sasha Banks prenne le micro et dise à Bailey, écoute ma copine, ça fait plus d'un an et tout que t'es championne, je t'ai aidé souvent, on a nettoyé la division féminine, on a battu tout le monde, et en fait la seule que t'es pas battue c'est moi, donc est-ce qu'on pourrait se le faire ce match dont tout le monde rêve, copine contre copine pour le titre, voilà. Et ça serait intéressant que Bailey joue le jeu et dise ouais ok cool allez pourquoi pas, c'est vrai que ça fait un an que je suis championne, etc. Et qu'on ait cet affrontement, les guides, en mode les deux filles sont d'accord, amitié entre guillemets, mais que pendant le combat, Bailey tente un truc, genre je sais pas quoi, mais un truc hyper crade, un truc... Il n'y a pas de low blow chez les filles, mais une grosse triche pour garder le titre. Que Banks réussisse à l'éviter, mais qu'il y ait une espèce de turn, de switch, et que Banks comprenne qu'il dit putain, un truc dans ses yeux qui se dise en mode je peux vraiment pas lui faire confiance, elle est vraiment... prête à tout, et que là, durant le match, en fait, on est le turn, on est le tilt. Pas une espèce de cat fight où elle se mettrait sur la gueule, pas une espèce de twist au micro où Banks dirait « Ouais, tout ça depuis le temps que je t'ai porté sur mon dos, et ben maintenant, je veux mon match, je veux mon titre », et qu'elle lui pète la gueule, un peu comme Sonya Deville a fait là avec Mandy Rose. Non, que ça soit un peu entre les cordes. Mais bon, on verra si la WWE retient mon idée. En tout cas, pour le moment, les copines sont toujours copines et Charlotte est partout. Charlotte est partout. Pendant ce temps, Braun Strowman, dans les coulisses, est en train de soulever de la fonte. Ce à quoi Kayla Braxton lui dit « Ah, mais alors, si vous êtes là en train de vous entraîner, c'est que vous êtes d'accord pour aider Otis ce soir ?» Et Braun dit « Non, j'ai pas encore décidé, c'est ma façon de réfléchir. » Bon, pourquoi pas. Nous avons ensuite un clip des Forgotten Sons, où on nous prévient hein, tout ce que vont dire les Forgotten Sons. C'est leurs propos et leurs opinions, pas ceux de la WWE. Et c'est vrai qu'ils sont un peu virils, les trois fils oubliés, hein, ils sont les fils oubliés de la nation, puisque c'est ce qui nous explique qu'ils se sont... C'est des anciens Marines, ils ont tout fait, ils ont donné leur vie, leur corps voilà, à la patrie, et puis on les a pas accueillis à bras ouverts, donc ils vont répondre avec les poings, donc voilà, c'est les traumatisés hein, de la guerre, voilà. On sait qu'il y en a eu hein, dans toutes les guerres que les Américains ont fait, et Dieu sait s'ils en ont fait partout. Ben voilà, il y a les héros, il y a ceux qui sont les oubliés, et les Forgotten Sons... sont prêts à répondre coup pour coup à cette absence de remerciements. Bon, pour le moment, on ne sait pas qui ils vont cibler en priorité. D'ailleurs, les champions ne sont pas là hein. Ce soir. On ne verra pas le New Day. On voit Renee Young qui croise Miz et Morrison en coulisses. Miz et Morrison, ils appuient hein, sur le... Ils veulent mettre le doute aussi. Ils disent « Ouais, c'est sûr que Otis, il veut cacher ce soir. Alors moi, on serait Braun, on viendrait pas. Et puis même si Braun vient, c'est nous la meilleure tag team dans tous les cas. » Ok. Le tournoi intercontinental avance. Daniel Bryan et Drew Gulak s'affrontent sur le ring. Remake de Elimination Chamber, donc. Hein. Et match d'une intensité technique et tactique de très haut niveau. On passe énormément de temps au sol, à se tourner autour, à se tenter des soumissions, des prises de bras, des prises de coups, des étranglements. Ça, c'est vite, ça va très vite. C'est beau, hein. Ça sera sans conteste, le match de la soirée. De toute façon, on a eu très peu de matchs ce soir-là. Ça sera le match de la soirée. Voilà, on a des tentatives de Yes Lock de Daniel Bryan qui est brisé par Drew Gulak qui réussit à attraper les cordes. Drew Gulak aussi essaie de placer sa prise de finition, de soumission, qu'on appelle le Gulak, visiblement. qui est contré lui aussi par Daniel Bryan. Donc on a pas mal de choses. Bryan essaye à plusieurs reprises de faire des torsions de la jambe de Gulak, hein, il lui travaille un petit peu, mais Drew fait parler sa force. À un moment il contre par une souplesse, il place un slam sur Bryan, à mon avis très très limite. Bryan il a un petit cri de douleur, je sais pas si c'est simulé ou pas, mais la nuque de Bryan a vraiment été tournée au dernier moment avant de toucher le ring. Moyen, mais bon, voilà, near fall. Et donc Gulak va aussi placer un powerbomb, donc c'est lui qui a plutôt le rôle de l'homme fort, musclé du match, Bryan étant plutôt dans le côté soumission. À un moment donné, quand même, Daniel Bryan se met sur le côté, il va placer son yes knee, il veut placer son finisher, son high knee, mais Gulak l'évite, il sortira aussi du yes lock, il est très très en forme, Gulak, il joue vraiment son rôle de mastermind. Mais Bryan, à un moment donné, lui place une torsion de la cheville très violente en lui claquant la jambe sur le ring, en lui plaçant une soumission sur cette cheville assez inédite. C'est pas la prise de finition classique de Daniel Bryan, mais ça suffira pour l'emporter. Gulak tap out. Donc Bryan l'emporte, comme au dernier pay-per-view avec public. C'était Elimination Chamber. Donc Bryan gagne au micro. Il nous dit que voilà, il y a à peu près 5 ans, hein, Daniel Bryan, il avait dû abandonner le titre intercontinental parce qu'il était blessé et c'était sa retraite, c'était sa première retraite. Donc 5 ans plus tard, il est prêt à gagner ce titre et surtout à le défendre chaque semaine, à en faire le titre de SmackDown, le meilleur titre, puisqu'il est le meilleur catcheur du monde. Il veut le prouver, il est chaud Daniel Bryan, mais il serre quand même la main de Drew Gulak, puisque c'était un bel affrontement d'amitié. Comparé ça au match Elias Corbin, c'est différent, hein, clairement, je continue de le dire. C'était un bel affrontement et c'était une belle intensité et c'était plaisant à regarder, quoi. Corbin, il nous fait chier, merde, pourquoi il est pas parti avec la charrette? Bon, on va pas en rajouter comme d'habitude, mais oui, là, au niveau d'entertaining, je vois, enfin, pour moi, il y a un fossé évident entre ces deux rencontres. Sonya Deville et Dolph Ziggler ont trouvé le coin le plus obscur des backstage. Sonya Deville, elle parle. Dolph Ziggler, il reste muet. Sonya Deville, elle dit que la semaine prochaine, il y a un tag team mixte. Elle sera donc avec son Dolph contre Mandy Rose et Otis. Ok, bon, pourquoi pas, depuis le temps qu'on prévoyait cette affiche. Et Sonya Deville a dit qu'elle est prête à éliminer Mandy Rose, que Mandy est même pas une bonne amie, qu'elle est même pas une bonne partenaire tag team, qu'elle est juste bonne à être blonde et jolie, mais qu'en gros ça va lui donner comme avenir juste d'être la bobonne de Otis, de faire la cuisine, de faire cuire les steaks et de s'occuper des enfants. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Mandy Rose? De toute façon, Sonya, elle lui dit, voilà, je vais ruiner ta vie, je l'ai dit, je suis prête à le faire, la semaine prochaine, prouve-moi que tu mérites d'être sur le ring avec moi. Et voilà, elle fait un petit touche un peu Dolph Ziggler, mais c'est pas vraiment tout à fait déclaré une relation amoureuse, c'est plutôt une relation d'admiration réciproque pour le moment, même si on le connaît, le Dolph, hein, c'est lui qui a l'habitude de voler la girlfriend. Bref, on va avoir cet affrontement. Puisque cette rivalité n'en finit pas, est-ce que ça vous plaît? Je ne sais pas. Est-ce que ça me plaît? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est temps d'en finir? Oui, pourquoi pas. Ziggler n'est pas dans le tournoi intercontinental. Ça fait chier aussi, hein, sur le principe. On aurait bien aimé voir Ziggler. Moi, j'aurais signé pour un Ziggler Cesaro à la place d'un Elias Corbin. Mais bon, ce n'est pas moi qui fais le booking. On verra bien. On ne sait pas trop ce que Ziggler veut dans tout ça. Quel est son intérêt au final? Mais... ils en mettent du temps, hein, quand même, pour se venger de Otis, parce que Otis, ben, il a tout gagné, il a la gonzesse et il a la mallette. Donc c'est pas trop réussi pour le moment comme opération de destruction de vie. Hein. Mais ça va peut-être venir, on verra bien. Sur ce main event, donc, Miz et Morrison contre Otis qui arrive. Alors Miz et Morrison, ils font genre, hey, y a personne, il est où ton tag team partner? Et ben ils en seront aux fraises, puisque Braun Strowman est bien là. Braun, le champion, débarque, le champion universel est là. Donc il accepte d'être le partenaire de Otis pour ce soir. Otis commence, il domine John Morrison, et à un moment donné, voilà, il propose à Braun, hey, allez, on fait le double caterpillar, donc ils y vont tous les deux. Alors Braun, il fait très mal le worm, hein, le caterpillar, mais ils font le double descente du coude. Sauf qu'on s'en va à la pub, et donc forcément au retour, les méchants dominent. On apprend que Miz, dans le dos de l'arbitre, a mis ses doigts dans les yeux de Otis. C'est très vilain, ça fait très mal, c'est interdit, qui permet au duo Miz et Morrison de dominer. Miz envoie une série de yes kicks, il s'amuse line, il tabasse un petit peu Otis, il lui place un collier arrière pour bien l'étouffer, pour lui faire perdre un petit peu conscience. Mais Otis réussit à contrer une double souplesse, c'est-à-dire Miz et Morrison essaient de le soulever, et ben non, c'est lui qui les a fait passer de l'autre côté. Il permet à Braun de rentrer, il fait le tag, Braun détruit tout le monde, il envoie Miz à l'extérieur. Il court pour faire une Strowman Express. Bon, Morrison l'évite, mais le Miz l'apprend de plein fouet. Heureusement, Morrison, donc je disais, Jomo a réussi à éviter le pire. Et il va sauver son ami le Miz sur le ring. Il va le faire sortir du coin du ring. Ce qui fait que Braun, qui se précipitait, prend le poteau. Miz se tag à l'intérieur du match. Il envoie une série de kicks à John Morris. Il envoie une série de kicks à Braun Strowman, pardon. Mais il est attrapé. Alors qu'il virevoltait Jomo. Il est attrapé. La power slam. Et le tombé victorieux. Donc, le match était assez court. J'ai pas les timings, mais je pense qu'il était à 7 minutes, à peu près 6-7 minutes. Victoire de Otis et de Braun Strowman. Ça paraît assez prévisible. Braun, il est assez imbattable, hein, de toute façon. Les gagnants célèbrent. Mandy Rose arrive. Mandy, tout ça, toute mignonne. Elle fait coucou. Braun Strowman la regarde. Et Otis a l'air de... Il regarde derrière. Il a l'air d'être prêt à attaquer Strowman, hein, comme s'il voulait cacher. Puis finalement, Braun se retourne. Et Otis, il fait « Oh, alors c'était juste une petite blague, c'était pour détendre l'atmosphère, c'était pour déconner. » Et bon, ben Braun n'en tient pas rigueur, il dit « Ok, c'est de la déconnade, ok. » Donc ils célèbrent tous les trois, Mandy Rose, Otis et Braun Strowman. Et l'on finit ainsi ce SmackDown. Alors, clairement, l'attraction principale, hein, c'est voilà, le départ de la paire de titres de Sami Zayn. Et le tournoi intercontinental, donc avec des affiches assez, voilà, assez originales, il faut le souligner. Voilà, on s'attendait peut-être pas à avoir Sheamus contre Jeff Hardy direct. On s'attendait sûrement pas à avoir Bryan versus Gulak. Voilà, AJ Styles s'incruste dans cette affaire alors qu'il était plutôt censé être à Raw. On verra tout ça la semaine prochaine. Bon, on a sorti Corbin, donc déjà le pire vainqueur possible est out. J'ai du mal à imaginer Elias l'emporter, hein, surtout qu'il affrontera le vainqueur de Styles Nakamura. Donc bon, les chances sont très minimes. On peut avoir une belle finale, Daniel Bryan et Jay Styles, ou encore ben voilà, Jeff Hardy qui, on va dire, semble bien parti pour battre Sheamus peut-être, mais c'est pas du tout facile à pronostiquer. Voilà, il peut y avoir des interférences ensuite. Voilà, Sheamus peut très bien perdre contre Jeff Hardy. Puis lui coûter la victoire au prochain tour, on ne sait pas. Voilà, c'est intéressant à suivre, ma foi. De toute façon, le titre intercontinental, l'idée c'est de le revaloriser, hein, toujours. C'est le titre chéri de notre ami Tonton Chris. À côté de ça, je vous avoue que c'est pas folichon. Hein. Le fil de ce soir, c'était clairement un one shot. Voilà, c'était John Morrison et le Miz qui ont servi un petit peu de chair à pâté pour Otis et Braun Strowman. Là, le petit détail intéressant, c'est que finalement, Otis nous prouve bien qu'il est intéressé par la ceinture de Strowman. Donc je sais que nombre des suiveurs de la WWE francophone qui sont sur notre Discord imaginent que Otis fera un cash-in sur le titre tag team avec Tucker contre les New Day ou les champions qu'il y aura à ce moment-là. Bah honnêtement, une fois que t'as flairé un peu que tu peux devenir champion universel, ça serait quand même très con. Enfin, franchement, on sait que Otis n'est pas vendu comme un mec très intelligent, mais une fois que tu as compris là ce soir que, ah tiens, ouais, avec un peu de chance, si je me débrouille bien, si Strowman se fait tabasser, tout ça, je peux placer un cash-in et devenir champion universel. Bon, faudrait vraiment avoir peu d'ambition pour cacher sur le New Day. On verra bien. On n'a pas vu Braun Strowman, on n'a pas vu The Fiend, donc beaucoup de choses sont encore possibles dans les semaines à venir. Voilà, Charlotte est partout, je suis pas sûr que ça me fasse rêver. Je suis pas sûr que la façon dont on continue à doucement, lentement, tranquillement envisager que Sasha Banks, à un moment donné, finira par trahir Bayley, ça me fasse rêver. Donc, ouais, SmackDown un peu poussif, à qui je vais mettre la note de 2. Mon top étant inévitablement le Bryan contre Drew Gulak. Ça, sans discuter, c'était un bon match. C'était vraiment un bon match. J'ai 3 flops en tête, donc je vais vous les dire tous les 3. Que Cesaro soit out du tournoi, ça me fait chier, clairement. Que le hacker nous ait sorti le même clip que la dernière fois, grosse paresse. Et puis Corbin et Elias qui était pourri. Mais puisque j'ai donné le top à un des deux matchs du tournoi intercontinental, je vais donner le flop à l'autre match du tournoi intercontinental. J'ai trouvé ça chiant, franchement. Elias, ce fut un... Moi, j'ai beaucoup aimé les débuts d'Elias. C'était un grand espoir. Le personnage prenait. Il y avait au début, il y avait énormément de hits. C'était un très bon heel. Puis, il y a eu énormément de pop. C'était un très bon face. Mais il faut du public pour Elias. Et clairement, c'est pas un catcheur de très grand talent.
et c'est pas contre Corbin qu'on va avoir quelque chose. Donc c'est une feud vraiment pas terrible et trop longue et auquel on s'implique pas parce qu'on n'a pas tant d'intérêt que ça pour Elias. Donc non, c'était vraiment pas top. En plus voilà, Elias qui nous surjoue la colère que sa guitare était pétée alors qu'il en a pété des milliers sur le dos de ses adversaires. Bof, 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 bof quoi. Mais avant de finir ce SmackDown solo, bah je ne suis pas solo les amis. Je ne suis pas solo car heureusement avec moi, j'ai ce héros, ce fan number one, le point Gilbert, mesdames et messieurs. Gilbert. Voilà, Gilbert nous a envoyé une série de questions pour ce SmackDown. Malheureusement, avant d'avoir pu voir l'épisode. Donc sa première question, qui sont les favoris pour le titre intercontinental? Lui, il voyait Elias, Jeff Hardy, Gulak ou Sheamus. Bon, ben voilà, Gulak est out, il est sorti de l'équation. Il disait que Daniel Bryan, Corbin, Le Miz ou Cesaro n'allaient pas le gagner parce qu'ils avaient déjà trop gagné ou ils n'étaient pas favoris. Bah Cesaro, voilà, on a dit que Cesaro et Le Miz, ils sont pas là. Corbin, il a perdu. Bryan est encore en lice. Écoute, moi, Gilbert, j'ai beaucoup de mal à imaginer Sheamus favori. Je pense que c'est pas un des gagnants pour ça. Jeff Hardy ferait un beau champion intercontinental. Daniel Bryan aussi, moi je trouve, hein, ce qu'il a raconté là, en disant qu'il y a 5 ans il avait dû lâcher la ceinture. Oui, c'est Bryan qui se promet de défendre ça toutes les semaines. Non, oui, Bryan, ça serait tout à fait prestigieux, hein, il y a aucune honte à ça. Tout après, les autres, bon, Nakamura, ça m'intéresse moins. AJ Styles, je sais pas trop, je vois pas trop ce qu'il fait là dans le tournoi SmackDown. Pourquoi pas. De toute façon, là, c'est difficile. Hein. Enfin, voilà, on a une brand extension, entre guillemets, avec les invitations. S'il fallait mettre une pièce, ouais, je la mettrais peut-être sur Jeff Hardy, puisque la feud qui s'ensuit est assez évidente, hein, contre Sheamus quelques semaines. Mais peut-être qu'ils veulent faire de Hardy versus Sheamus une feud hors ceinture. Donc peut-être Bryan, je ne sais pas. Alors, la deuxième question de Gilbert, est-ce que, quand même, l'Intercontinental Championship, justement, c'est pas un peu trop ces derniers temps pour les main eventers en perdition? Gilbert nous cite, voilà, Nakamura, Baylor, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Ziggler, Le Miz, et n'oublions pas Strowman aussi. Hein. Alors là, pour moi, Gilbert, je vais te parler d'homme à homme, seul à seul, les yeux dans les yeux. Je pense qu'il y a un problème de définition du terme main eventer. Je pense qu'il faut comprendre à la WWE que très rare sont les gars qui vont main eventer tout le temps. D'ailleurs, ça n'arrive jamais, hein, pour des... Enfin, si on part du principe que le main event, c'est pour chaque show les deux mecs qui sont dans la feud pour le titre suprême, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Des fois les titres suprêmes, ça arrive en opener ou autre, bah, y a la place que pour deux gars. Et ça ne peut pas être toujours les mêmes. Hein. Y a quand même, pour moi, c'est évident qu'un des clés du succès de la WWE et du catch, et scénaristiquement parlant de son intérêt, c'est que ça tourne un peu, ça tourne. Voilà, ces dernières années, on a eu, pour les titres mondiaux, bon, on a eu beaucoup, malheureusement, Lesnar qui a un peu accaparé les trucs, mais on a eu Strowman, on a eu Reigns, on a eu Rollins, on a eu Baylor, on a eu un peu Samoa Joe dans l'équation, on a eu un petit peu Daniel Bryan, on a eu AJ Styles, ça tourne. Donc par définition, ça me paraît normal. Pour moi, c'est pas forcément être main eventer en perdition que d'être champion intercontinental. Ziggler, Le Miz sont des personnes qui vont plutôt, à mon avis, naviguer entre le main event et la mid-card. D'ailleurs, Ziggler est beaucoup plus dans la mid-card, up-card, et Le Miz aussi que dans le main event. Bobby Lashley aussi, clairement. Dean Ambrose aussi, d'ailleurs. Dean Ambrose, je pense qu'il a largement montré, malheureusement, qu'il n'avait pas trop le niveau du main event. Non, pour moi, là où je suis d'accord avec toi, Gilbert, c'est que trop souvent, le titre intercontinental est donné assez vite à un mec voilà, qui bon, tout d'un coup... Voilà, il y a un mec qui est un peu, comme tu dis, un peu oublié, un peu sorti des ratings, qui revient, qui le gagne très vite, parfois qui le repère très vite au profit d'un autre mec. Donc c'est vrai que le titre intercontinental n'est pas toujours bien scénarisé, clairement. Voilà, il y a un problème qui fait que souvent c'est la ceinture qui sert à faire le champion et pas l'inverse. Alors qu'on préférait que ce soit un mec talentueux, doué, performant, qui a enchaîné les bons matchs, qui se retrouve champion. Alors que souvent c'est l'inverse, on donne la ceinture à un mec qui ensuite va prouver qu'il le méritait a posteriori. Mais tu verrais qui toi plutôt Gulak, oui, aurait pu être un champion intercontinental intéressant. Mais voilà, que ce soit Jeff Hardy ou ou Sheamus, ou Bryan, ou AJ Styles, ou Nakamura, tout ça sont des mecs qui ont été main eventers à une époque, qui ne le sont plus, qui y reviendront peut-être. Pour moi, c'est assez logique dans le monde du catch, hein, que les, voilà, Bryan a été aussi sur la scène tag team avec, avec le pauvre Rowan qui est parti désormais. Jeff Hardy aussi a été sur la chaîne tag team, Sheamus aussi. Je crois que même un mec comme John Cena ou même un mec comme Roman Reigns a des périodes ceinture intermédiaire, feud intermédiaire. Il n'y a que Lesnar hein, pour le moment qui est ce part-timer qui ne vient que pour être champion du monde. Mais non, je... dire que c'est pour des main eventers en perdition, ça me semble un peu violent comme expression. Et ta dernière question, Gilbert, les New Day vont-ils foutre la paix au titre tag team une fois qu'ils auront égalé ou dépassé le record des Dudley Boys? Alors, de mémoire, il leur reste deux règnes hein, pour égaler le record des Dudley Boys. Honnêtement, je pense que ça viendra pour les New Day d'égaler ou de dépasser même le record des Dudley Boys. Mais ces dernières années, ils sont quand même en mode alternatif. Hein, les New Day, moi, je me vois pas dire qu'ils dominent, ils accaparent la division. Ils ont largement laissé la place à The Bar, par exemple. The Bar qui a explosé aussi un peu grâce aux New Day, hein, qui les ont laissés briser leur règne historique, etc. etc. Là, on a eu quand même une très très longue parenthèse Kofi Mania. Biggie et Xavier Woods ont été champions aussi pendant ce temps, mais je pense que c'est pas possible d'imaginer les New Day abandonner à tout jamais la ceinture tag team, alors que bah, c'est quand même des piliers de la fédération et c'est les légendes et tout ce que tu veux. Donc je pense que les New Day vont aller jusqu'au titre tag team, jusqu'au record, mais petit à petit. Moi, je les vois bien perdre leur ceinture là et puis passer plusieurs mois sans la regagner, feuder contre des champions en devenir ou booster un petit peu les jeunes comme ils sont partis pour le faire là avec les Forgotten Sons. Non, moi, je le trouve bien utilisé, le New Day. La division tag team de SmackDown n'est pas très remplie. De toute façon, à la WWE, hein, il n'y a jamais plus d'une dizaine d'équipes, en gros. Donc c'est normal que les meilleurs, les champions de toujours, les top carders, les plus gros vendeurs de produits dérivés, tout ça, enfin le New Day, c'est quand même quelque chose d'unique dans la WWE actuellement, dans ces 10 dernières années. C'est un produit qui a extraordinairement bien réussi, qui s'est ancré dans le temps, dans la durée, qui n'a jamais déçu sur le ring, qui a cette feud aussi croisée un peu au long cours avec les Usos, même si les Usos ont eu un peu plus d'absence pour des raisons de blessures, de suspension, tout ça. Donc moi, la présence des New Day champions tag team en 2020 ne me dérange pas du tout, tant que c'est bien raconté. Même si, oui, j'aurais peut-être préféré voir Miz et Morrison un peu plus là, mais attention, le Haker a dit qu'il allait nous détruire des amitiés, donc no one is safe, le New Day n'est pas safe. Peut-être qu'ils vont splitter. Moi, j'y crois pas, mais sait-on jamais. Voilà mon bon Gilbert, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions, j'espère que pour tous les autres qui nous écoutent, vous avez apprécié cette analyse en solo, n'hésitez pas à donner vos avis hein, si vous n'êtes pas d'accord, si vous aimez bien Corbin, si vous détestez Drew Gulak, comment vous sentez ce plateau, quel est votre favori pour le titre intercontinental, est-ce que ça vous botte de voir Charlotte tous les soirs que Dieu fait à la WWE, est-ce que Otis devrait cacher bientôt ? Est-ce que Braun Strowman devrait se méfier un petit peu plus ? Voilà, n'hésitez pas à réagir, à donner vos avis, vos commentaires, qui est derrière le hacker. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, iTunes, PodCloud, sur YouTube. Vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook, CatchUpCDC, et le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Que vous avez passé un bon SmackDown de votre côté. Moi, je vais vous rendre l'antenne. Je vais vous laisser passer un bon week-end. On sera là lundi pour un Raw, donc avec Baron Corbin contre Drew McIntyre qui s'annonce de toute beauté, de toute folie. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, regardez du catch et à très bientôt sur... Je vais faire plaisir à mon ami Chris sur Catch. Wow.